Bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran. Soyez bénis. J'ai expérimenté un culte sur un canapé. C'est agréable, mais on se réjouit d'être tous ensemble en présentiel. Juste à côté, dans l'église, on peut penser aux moniteurs des potes. On les salue. Ils apportent une nourriture solide à nos enfants. Qu'ils soient bénis pour ce travail. J'ai été une fois là à côté dans l'église et ils devaient présenter ce que c'est que la seule personne qui est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Ce n'est pas facile. Mais ils avaient une expérience pour montrer ça aux enfants et ils avaient pris de la glace, ils avaient pris une bouteille d'eau et ils avaient pris un chauffe-eau pour chauffer l'eau. Et ils ont dit, ben voilà, c'est de l'eau, mais on a trois noms différents, soit glace, mais c'est de l'eau, soit de l'eau dans la bouteille, c'est de l'eau, et la troisième, de la vapeur, mais c'est de l'eau. Juste derrière le mur du fond, on peut penser aux personnes avec leurs petits gobelets. Mettons dans leurs gobelets en sortant un peu d'amour et des paroles encourageantes de Jésus-Christ. J'aimerais juste devant le mur du fond saluer particulièrement ceux de la technique. Que Dieu vous bénisse pour tous vos travaux importants. Depuis le fond de la salle jusque devant, j'aimerais saluer chacune, chacun, leur dire « Passez un bon moment en présence du Seigneur ». Je profite de saluer l'équipe de louanges qui travaille plusieurs heures pour nous apporter de magnifiques chants. Merci à chacun. Je n'aimerais pas oublier non plus de saluer nos deux pasteurs, Célina, Philippe, pour tout leur travail logistique, Covid oblige, mais aussi pour leur travail pastoral qu'ils exercent par amour pour nous. Ils font un parfait tandem, un côté masculin et une sensibilité féminine. Soyez tous, auprès comme au loin, bénis et accueillis dans la présence du Seigneur pour ce culte du 6 juin. Magnifique ! Depuis ce matin, on peut de nouveau chanter à travers nos masques. Les terrasses sont réouvertes, ainsi que les restaurants. Bientôt, plus de couvre-feu pour nos voisins. Chaque jour, on entend l'éternel refrain « On va revivre comme avant ». Quand on interroge ces personnes qui disent ça, ils nous répondent « Mais on veut voyager à l'autre bout du monde, profiter de toutes les facilités de la vie, aller au restaurant ». Au cinéma, au dancing, bref, pensez à moi. Je me pose souvent la question, qu'est-ce que c'est vivre comme avant? Est-ce que pour moi, chrétien, il y aura un avant et un après? Oui, je pense, et le texte de la méditation de ce matin est là pour nous rappeler que notre témoignage passe avant tout par notre savoir-être vis-à-vis de notre prochain. Dieu nous demande d'avoir une attitude positive axée sur l'écoute de l'autre. N'oublions pas que cette pandémie a laissé beaucoup d'âmes blessées, abattues, découragées au bord du chemin. Dépassons notre vision égoïste de la situation et incluons l'autre à notre sentiment de liberté retrouvée. Concernant l'Église, elle a dû pendant des mois se replier sur elle-même et je l'imagine telle une fleur qui peut à nouveau s'ouvrir, s'épanouir, illuminée par ses couleurs vives. La pandémie a suscité un intérêt accru pour la Bible et pour les églises. Soyons attentifs et prêts à accueillir les nouveaux venus, montrons-leur de la bienveillance et une réelle attention. Je ne sais pas si la personne est là, mais je profite pour saluer notre frère Thiago, avec toute sa famille, soyez les bienvenus parmi nous à l'église évangélique de Mérin. Je ne sais pas s'ils sont là. Voilà. Et prenons soin ensemble de ceux qui sont dans la souffrance ou dans le deuil. Je lirai deux versets en Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Soyons des servantes et des serviteurs du Seigneur. Cultivons toutes ces qualités. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Prions. Ô Dieu et Père, nous voulons vraiment te remercier parce que nous pouvons encore une fois, en cette journée, te louer. Tu as eu, Seigneur Jésus, tout l'amour pour nous. Tu es venu sur cette terre, tu es mort, tu es ressuscité, et nous pouvons te dire merci du fond du cœur. Nous voulons passer ensemble un moment avec ceux qui sont derrière l'écran, avec ceux qui sont ici, en te disant merci Seigneur, te louer pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Philippe va nous rappeler les nouvelles consignes.
Bonjour à chacun, chacune. Comme nous vous l'avons communiqué, je me permets juste une petite touche de rappel. À partir de ce dimanche, nous pouvons donc nous retrouver plus nombreux. Nous sommes là ce matin en capacité ultra maximale, c'est-à-dire 76, 77 sièges. On ne pourra pas aller plus loin avant les nouveaux assouplissements. Il nous faut continuer à porter le masque, ce d'autant qu'à partir de ce matin, nous pouvons reprendre le chant communautaire avec un instrument avant, avec un ou deux choristes qui ne portent pas le masque. Ils ont cette autorisation à partir du moment où nous avons au moins 3 mètres entre eux et puis le premier rang. Les autres activités d'église peuvent aussi reprendre progressivement. Si vous souhaitez vous retrouver dans une salle ou l'autre, merci de vous manifester auprès d'Anne-Béatrice Chanson. Nous attendons d'autres assouplissements, Dieu voulant, pour le début du mois de juillet, ce qui devrait rendre possible les grillades estivales. Si ce n'était pas le cas, on redimensionnerait les grillades estivales en pique-nique. Parce que pour l'instant, ce qui est laissé en suspens, c'est l'idée de se rassembler à plusieurs autour d'un buffet ou d'un grill. Ça, pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Mais pour le reste, on se réjouit de ce qu'on pourra vivre ces prochains mois. Voilà, merci. Célina, Johan et moi, on est bien sûr à votre disposition, comme le groupe de veille sanitaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin. Merci de continuer à vous inscrire en déposant vos coordonnées dès que les inscriptions sont ouvertes, généralement le mardi ou le mercredi, selon l'emploi du temps de Sylvain qui gère admirablement bien les inscriptions en ligne. Bienvenue, c'est génial de pouvoir vivre un culte ensemble. Profitons-en pour louer Dieu et puis nous serrer les coudes les uns les autres.
Voilà, à mon tour de vous dire bonjour. Pour introduire ce moment de louange, je voulais vous lire quelques versets dans le Deutéronome 5. C'est un texte qui se trouve, qui est dans le contexte, c'est le renouvellement donc de l'alliance entre Dieu et son peuple avant l'entrée en terre promise. Et Moïse rappelle à cette occasion, Moïse rappelle au peuple quels sont ses fondamentaux. D'abord, avec quel Dieu l'alliance est conclue, et puis quels sont les faits sur lesquels repose cette alliance. Alors, voilà. Alors, Deutéronome 5, les versets 31 à 40. L'Éternel, votre Dieu, est un Dieu compatissant. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclu par serment avec vos ancêtres. L'Éternel seul est Dieu. En effet, Israël, informe-toi sur les temps anciens où tu n'étais pas encore né. Depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, informe-toi d'un bout du ciel à l'autre. Est-il jamais arrivé événement aussi extraordinaire? A-t-on jamais entendu rien de pareil? Un peuple a-t-il entendu, comme toi, la voix de Dieu parlant au milieu du feu sans perdre la vie? Quel Dieu a jamais entrepris d'aller se chercher un peuple au milieu d'un autre peuple? À force d'épreuves, de signes miraculeux, de prodiges, par des combats et en intervenant avec puissance, en semant la terreur, comme tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte et dont tu as été le témoin. Toi, il t'a fait voir tout cela pour que tu saches que l'Éternel seul est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Il t'a fait entendre sa voix du haut du ciel pour ton éducation. Et sur la terre, il t'a fait voir son feu imposant parce qu'il a aimé tes ancêtres et parce qu'il a choisi leurs descendants après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte en déployant une grande puissance pour déposséder à ton profit des nations plus grandes et plus puissantes que toi, afin de te faire entrer dans leur pays et de te le donner en possession, comme il va le faire maintenant. Reconnais donc aujourd'hui et garde présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Obéis à ses lois et à ses commandements que je te transmets aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu vives de nombreux jours dans le pays que l'Éternel Dieu te donne pour toujours. Alors vous l'aurez remarqué, l'affirmation massive de ce texte, c'est que l'Éternel seul est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Alors je crois qu'on doit aussi reconnaître ça aujourd'hui pour nous. Être chrétien, ça commence aussi par cela, c'est reconnaître que l'Éternel seul est Dieu. Et je vous propose de le proclamer par le chant « Nous nous tournons vers toi » dont le refrain dit « Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux ».
Nous nous tournons vers toi en cet instant. Nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce monde fou pour retrouver la paix à genoux. Car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Car tu es le seul Dieu sur la terre et les cieux. Car tu es le seul Dieu sur la terre et les cieux. Nous t'apportons nos dons pour t'adorer, créer, chanter, danser pour t'honorer. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. car tu es le seul Dieu sur la terre et les cieux.
Alors être chrétien, c'est faire partie du nouvel Israël qui est l'Église. Ce nouvel Israël qui est fondé par une nouvelle alliance. Comme l'ancienne, cette nouvelle alliance, elle est aussi fondée sur des faits. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je reprends notre texte en l'adaptant un petit peu. Est-il jamais arrivé un événement aussi extraordinaire? A-t-on jamais entendu rien de pareil? Un peuple a-t-il entendu, comme nous chrétiens, la voix de Dieu en Jésus-Christ, sans perdre la vie? Et quel Dieu a jamais entrepris d'aller se chercher un peuple au milieu de tous les autres peuples en intervenant avec puissance, comme tout ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait pour t'arracher à ton Égypte, c'est-à-dire ton ancienne vie dans l'esclavage du péché? Dieu crée et maintient cette alliance qu'il a faite en Jésus-Christ pour nous sauver. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bien plus que par notre foi et nos œuvres, notre salut est assuré par la fidélité de Dieu, donc par sa fidélité à son alliance qu'il a conclue avec nous. Alors le chant suivant dit, Dieu ta fidélité. Alors comme vous le savez, L'histoire du peuple d'Israël n'a pas été une série continue de victoires éclatantes dans nos vies. Je pense que, heureusement, il y a quelques victoires, mais il y a aussi quelques défaites qui n'en a pas connues. Et notre foi reste bien souvent limitée. Et ouais, voilà. Mais comme pour le peuple d'Israël, et comme nous venons de le chanter, quand Dieu reste fidèle, quand Dieu nous choisit, alors nous pouvons aller de l'avant en l'adorant. Et c'est le prochain chant.
Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé. Tu as effacé tout mon passé. Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, tu m'as aimé, tu m'as donné ta vie. Je suis tombé, tu as effacé, tu m'as pardonné ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai.
Je vais encore prier pour Philippe. Seigneur, nous te remettons vraiment Philippe pour le message qu'il va nous donner, que vraiment ce message vienne de toi pour nous et nous rejoigne dans toutes nos circonstances actuelles et soit vraiment actuel pour chacun de nos cœurs. Donne-lui vraiment toute ta direction pour ce message. Amen.
Nous arrivons ce matin à la fin de notre survol d'un Thessalonicien. Nous l'avons démarré en février, il y a une petite pause autour de Pâques, nous l'avons repris ensuite et puis ce matin, nous arrivons au bout de ce survol. Nous avions repéré tout au début les débuts difficiles, mais exemplaires de cette église de Thessalonique. Nous avions parlé de ces responsables vulnérables, mais aussi exemplaires. Nous avons évoqué cette idée de tenir dans la durée. Comment on fait pour tenir au fil des ans, au fil des circonstances ? Célina nous avait tellement encouragés autour de 1 Thessaloniciens 4 sur le rapport au corps, le nôtre, celui des autres. Nous avons parlé de mort et de résurrection. Et puis, dimanche dernier encore, sur le retour de Christ, nous avons été encouragés par Célina à garder les yeux ouverts. Nous avons vu comment l'apôtre Paul encourageait les chrétiens à vivre lumineusement en attendant que Christ revienne. Vivre lumineusement. Quand j'ai tapé ça dans mon document Word, ça me l'a souligné en rouge. L'adverbe n'existe pas. Mais j'espère que le principe demeure. Vivre lumineusement. C'est pour quand le retour de Christ? Eh bien, pas un mot de la part de l'apôtre Paul là-dessus. Il ne dira rien de plus. Mais il nous invite à réfléchir à comment s'y préparer, en cultivant l'amour, la foi, l'espérance. Voilà des consignes que Paul nous laisse et qui ne vont jamais varier au cours de l'histoire. Quelles que soient les prophéties plus ou moins inspirées que l'on entend sur le sujet, quels que soient les effets de mode, quels que soient les bruits qui courent, les bruits de couloir qu'on entend parfois dans nos propres églises évangéliques sur des interprétations qui sont franchement discutables. On n'en sait pas plus sur le retour de Christ, mais on sait comment l'attendre en cultivant délibérément la foi, l'espérance et l'amour. Et nous arrivons ce matin à la toute fin de cette première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et là, c'est le moment des recommandations diverses. Des PS, post-scriptum. Comme si Paul nous disait à la fin de cette lettre, c'est l'impression que ça me laisse, hein, « Et les amis, avant que j'oublie, il y a encore 2-3 choses importantes que je dois vous laisser. Avant de conclure, avant que j'oublie, quelques PS, prenez-les. » Et en quelques mots, nous allons, nous, ici, pouvoir regarder dans les coulisses de l'église de Thessalonique. Nous allons entrer dans l'intimité de cette église du premier siècle. Dans ce qu'elle a de plus ordinaire. Pas les grandes, grandes choses. Vous savez, pas ces choses qu'on dit sur telle ou telle église. Ah, c'est l'église de, ou c'est l'église qui a fait. Juste l'ordinaire, le quotidien, le tout venant. Et en lisant cette dernière partie, j'aimerais essayer de voir avec vous en quelques instants quels sont, à mon sens, les PS les plus importants. Et ce que je vous propose, c'est un petit défi que je nous lance hein, pour ce culte tout neuf, c'est d'essayer d'en repérer vous-même quelques-uns pendant que je ferai la lecture. Puis ce serait intéressant qu'on prenne quelques instants comme ça pour mettre les choses en commun, pour voir finalement si votre sensibilité rejoint celle des autres, la mienne, en préparant cette prédication ce matin. Alors, on le lit, essayez de repérer l'un ou l'autre PS, l'une ou l'autre grande ligne directrice. Moi, je lis là, dans la Bible en français courant, en 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 à 28. Frères et sœurs, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirigent et vous avertissent. Manifestez-leur beaucoup d'estime et d'amour à cause de la peine qu'ils se donnent. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui n'assument pas leurs responsabilités. Redonnez du courage à ceux qui sont abattus. Venez en aide aux faibles. Soyez
patient envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à faire le bien envers vous et envers tout le monde. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Soyez reconnaissant en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action de l'Esprit-Saint. Ne méprisez pas les messages reçus de la part de Dieu. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Que Dieu, la source de la paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable, pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est lui qui accomplira cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez-vous les uns les autres avec affection, comme des frères et sœurs. Je vous en supplie, au nom du Seigneur, lisez cette lettre à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, je suis curieux. Vous avez noté des choses particulières, des choses qui vous semblent massives ou qui vous interpellent ici ? N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Et puis on aura le temps de reprendre ça en atelier biblique mardi soir, le dernier de la saison. Mardi soir, 20h, 21h30 en atelier biblique Zoom. Mais avant ça, une piste ou l'autre, quelque chose qui vous interpelle, qui vous marque, une grande ligne directrice, c'est quoi CPS ? C'est avant que j'oublie. Qu'est-ce qu'on y voit ?
Soyez toujours joyeux.
Waouh ! Et je crois que c'est les seuls mots que je ne vais pas prendre le temps de commenter ce matin. Je te remercie, Camille. Ça, ouais, soyez toujours joyeux. Ce n'est pas si évident. Hein. On pourrait parler de la joie. Est-ce que la joie, c'est youpi, tralala, ou c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus rentré, la joie ? Hein, ça, c'est un vrai sujet.
Réjouissez-vous toujours.
Ouais, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Waouh, soyez responsable. Hein, la foi, c'est quelque chose qui nous responsabilise. Ce n'est pas un truc qu'on subit, ce n'est pas un truc où on se laisse juste aller. La foi, ça nous responsabilise.
Ne méprisez pas les messages inspirés.
Waouh, alors ça va être le dernier point que je vais voir tout à l'heure. Ne méprisez pas les messages inspirés, on appelle ça comment dans le contexte chrétien, les messages inspirés ?
Les prophéties.
Les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Alors, s'il ne faut pas les mépriser, il faut aussi définir ce que c'est une prophétie. On va essayer de le faire en 3 minutes tout à l'heure. André.
Alors pour moi aussi, c'est les versets 19, 20 et 21 dans le contexte actuel. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Mais je pense que c'est une des préoccupations de moi actuellement vis-à-vis de mes contemporains.
Merci. D'accord avec toi, c'est un défi considérable dans l'Église contemporaine.
Soyez en paix entre vous.
Ah, soyez en paix. Si on est invité à être en paix, y a quoi derrière, Philippe, à ton avis ?
Il y a ce support mutuel.
Ouais.
Cette capacité de ne pas juger impérativement. La patience, les vertus de d'amour.
Et puis si on est comme ça encouragé ici, pourquoi à ton avis ? Pourquoi on est encouragé à...
C'est un signe distinctif des chrétiens par rapport au monde.
Waouh ! D'être en paix les uns avec les autres. Un signe distinctif. Mais peut-être aussi que ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas si simple d'être en paix les uns avec les autres. Et je bénis le Seigneur de nous donner... une église où nous sommes en paix les uns avec les autres. Parce que ce n'est pas si évident que ça. Regardez nos bibines. Je veux dire, on est tous tellement différents. Une autre idée, Jean-Pierre ?
C'est pas très populaire.
C'est pas très populaire, j'avertis. C'est quoi l'idée là derrière? C'est qu'on est, devant une parole qui est inspirée, quoi. C'est pas un truc où on dit prenez si vous avez envie. Les chrétiens, choisissez ce qui vous plaît. Si vous voulez être super sentimental, allez-y. Si vous voulez être hyper doctrinal, allez-y. Il y a l'idée qu'il y a une autorité qui nous invite à entrer dans une vie cohérente. Irène.
Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour ceux qui travaillent parmi nous.
Ouais.
Pas parmi vous, mais parmi nous.
Merci.
Pas seulement nos pasteurs, notre conseil, les moniteurs, mais tous ceux qui font le travail pratique.
Merci. Ça va être le premier PS sur lequel je vais m'arrêter un petit peu. Et c'est pas évident quand on lit ce PS, puis qu'on est de l'autre côté de sa Bible, en se disant, ben, peut-être ça nous concerne, nous autres, les responsables, les pasteurs, les diacres, les serviteurs et servantes. Tiens, on parle de nous ici. Ce n'est pas toujours évident d'oser en parler. Et puis, ben, comme disait Jean-Pierre, c'est dans la lettre, là, et puis on va essayer de ne pas l'éviter. Donc on va se donner quelques instants de réflexion là autour, dans quelques minutes. Mais j'aimerais couper la chic à personne.
L'encouragement mutuel.
Je suis en train d'écrire un petit texte. Dans 2 semaines, ça fait 20 ans que je suis pasteur. Purée, 20 ans. Tellement de trucs découverts, tellement de trucs qui ont changé. Quand j'ai commencé à être pasteur il y a 20 ans, je n'avais pas d'email. Facebook n'existait pas, Twitter n'existait pas, Insta n'existait pas. Il n'y avait pas de website. Qu'est-ce que tu as dit, Roger, pardon ?
C'était le paradis.
Ouais, joli coup. Mais un des trucs que j'ai remarqué qui n'a pas varié, c'est que tous, autant que nous sommes faibles. Nous sommes vulnérables. Nous tombons, nous chutons. Nous avons des combats considérables dans nos vies et nous avons besoin de nous encourager, de nous soutenir les uns des autres. Ça, c'est un invariable. Bon, mais c'est bon en fait. Je peux... Allez, j'ai préparé quelque chose, donc je vais quand même le partager un peu avec vous. Mais merci pour vos exhortations. Ça fait tellement de bien de partager comme ça. On reprend les choses une dernière fois cette saison, mardi soir en ligne. Et puis n'hésitez pas à venir avec vos remarques, y compris les trucs qui piquent, hein, c'est permis. Parmi les différents PS, et on va voir si j'ai réussi ma formation de la semaine. C'est Thierry Terra qui m'a dit, quand tu pointes, il ne faut pas pointer là-bas, il faut pointer là-bas. Tac. Là, Stuck. Merci Thierry. J'apprends encore. Le premier PS concerne, versets 12 et 13, ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur. Ça, c'est dans le texte. Quand je lis ça, moi j'apprends 3 choses que j'ai envie de partager avec vous. La première chose que j'apprends quand je lis ça, c'est que dans une église qui avait seulement quelques semaines, quelques mois d'existence, il y avait déjà des responsables. On est quelques mois après la fondation de l'église de Thessalonique. Et quelques mois après cette fondation, cette implantation d'église, Paul invite les Thessaloniciens à respecter ceux qui travaillent parmi eux, ceux qui les dirigent au nom du Seigneur. Donc j'apprends que dans une jeune église, il y avait déjà des responsables, qu'il y avait donc une structure. Autrement dit, le chaos, la pagaille, l'anarchie, ce n'est pas quelque chose de biblique. Passé un certain seuil, tout groupe humain, toute structure humaine s'organise autour de quelques responsables, dans n'importe quel groupe humain. Ces responsables, où que l'on regarde, on le sait bien,
Ils peuvent s'imposer par la ruse, ils peuvent s'imposer par la violence, ils peuvent s'imposer par la tromperie, ils peuvent s'imposer par le populisme. Ou alors, ces responsables peuvent gagner le respect de tous et de toutes par leur travail, par leurs compétences, par leur droiture. Ces responsables, on le sait, dans n'importe quel groupe humain, ils peuvent être nommés par une autorité extérieure ou ils peuvent être sollicités, élus, choisis de l'intérieur. Mais au-delà d'une petite dizaine de personnes, il y aura forcément un ou deux, trois ou quatre, dont la vie compte plus que les autres. De la même manière, les églises du Nouveau Testament ont des responsables. La deuxième chose que j'apprends ici, c'est que ces responsables à Thessalonique, c'était des hommes ou des femmes qui travaillaient. Et leur travail, nous dit Paul, c'était l'enseignement de la parole de Dieu et l'organisation de la vie en église. Un corps, ça s'organise. N'importe quel groupe humain doit s'organiser, à commencer par une famille. On s'organise. Une église, un corps, ça s'organise. On se réunit quand ? On se réunit où ? On se réunit pour faire quoi ? Il vous dirige, dit l'apôtre Paul. Puis Paul cite un autre aspect du ministère des responsables, ils vous avertissent. Autrement dit, les responsables d'une église, quel que soit le nom qu'on mette dessus, mais les responsables d'une église se préoccupent de la santé spirituelle et morale des chrétiens et des chrétiennes. Ils en parlent dans des prédications publiques, ils en parlent dans des entretiens particuliers. C'est clairement ici le rôle des anciens, pour évoquer le vocabulaire habituel, et j'aime beaucoup, moi, le vocabulaire choisi par les M, pour les désigner comme des conseillers et des conseillères. Ces conseillers et ces conseillères, ces responsables d'église, ils vous avertissent. Mais il y a un troisième constat que je peux tirer de ce premier PS. C'est que le ministère des responsables de Thessalonique, et depuis de toutes les églises, n'était pas forcément toujours reconnu par tous et par toutes. Verset 13. Appréciez-les, montrez-leur une grande estime, montrez-leur de l'affection, vivez en paix. Je ne monterai pas au bûcher pour ça, mais perso, je crois que si Paul dit ça, c'est que ça ne coulait pas de source. C'est que ça avait besoin d'être dit. Et j'imagine aisément que certains chrétiens, certaines chrétiennes ne se privaient pas de critiquer, de dénigrer, de contester, d'être dans l'opposition, de n'en faire qu'à leur tête, sans respect, ni amour, ni prise en compte de la vie des autres. Pourquoi ? Peut-être parce que leurs responsables ne partageaient pas une certaine vision exaltée du monde. Ou peut-être parce que des responsables essayaient de les ramener dans une vie plus sobre, dans le respect du travail, dans le respect du mariage. Ou pour d'autres raisons encore. Peut-être que ces responsables avaient une vue d'ensemble qu'ils avaient de la peine à partager, et que donc il y avait dans l'assemblée des gens qui avaient de la peine à les suivre. Toujours est-il que Paul a besoin de le dire. Respectez vos responsables. Qu'est-ce qui se passe si on décide de ne pas tenir compte de ce premier PS ? Qu'est-ce qui se passe si on laisse ce premier PS de côté ? L'Église devient une foire d'empoigne. L'Église devient un panier de crabes. Dans l'Église, on vise alors la lutte pour le pouvoir. L'Église devient une équipe de foot composé de brillantes individualités, mais sans cohésion. C'est une équipe perdante, à tous les coups. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Et moi, je veux dire ce matin, et je n'ai pas eu le temps de me caler avec Selina, mais je pense qu'on est exactement sur la même ligne comme toujours, que notre privilège à Mérin est grand de travailler dans la confiance, dans la concertation, dans le respect, que c'est quelque chose de très précieux, plus précieux que le succès, plus précieux que l'idée d'avoir pignon sur rue. Le respect, la concertation, la confiance, c'est un trésor. C'est à préserver, c'est à valoriser. Merci de prier pour le conseil, pour l'équipe pastorale. Merci de prier pour les travaux actuels du groupe de renouvellement du conseil. Le respect, la confiance, c'est primordial. Ce qui m'amène à un deuxième PS dans les versets 14 à 15. Si tu arrives à me l'avancer manuellement, c'est top. Merci. Si quelqu'un peut faire une imposition des mains, la zapette. Les versets 14 à 15. Nous vous recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui n'assument pas leurs responsabilités, redonnez du courage à ceux qui sont abattus, venez en aide aux faibles, soyez patients envers tous, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde. Vivre en Église, c'est vivre en relation. Et nous entendons là déjà, pour la deuxième fois, le verbe « avertir ». Signe, encore une fois, qu'il y a potentiellement des problèmes, ce qui n'est pas nouveau. La nouveauté ici, c'est que Paul demande à tout le monde d'avertir ceux qui ont une vie déréglée. Et la Bible du Semeur insiste sur le fait que ce sont les frères et les sœurs qui ont le devoir d'avertir ceux qui mènent une vie déréglée, de réconforter ceux qui sont découragés, de soutenir les faibles, d'être patient envers tous, tous les frères et les sœurs. Et on est là dans une des thématiques majeures de tout le Nouveau Testament. Nous sommes solidaires les uns des autres. Et à ce titre, nous nous exhortons les uns les autres. Nous nous édifions les uns les autres. Nous nous pardonnons les uns aux autres. Nous nous aidons les uns les autres. Un mot, un seul. Nous nous aimons les uns les autres. Qui peut être contre ça ? Qui peut être contre le fait de nous soutenir les uns les autres, de nous aimer les uns les autres? Qui peut être contre cela? C'est la conséquence logique de notre intégration dans le corps de Christ. Je deviens le gardien de mon frère, de ma sœur. Son bien-être me concerne. Qui peut être contre des relations fraternelles fortes? Eh bien, deux sortes de personnes, à mon sens, peuvent être contre des relations fraternelles fortes. D'abord, ce sont ceux et celles qui ont quelque chose à cacher. Ceux qui ne pensent qu'à eux. Ceux qui veulent une religion sans engagement, sans relation, sans redevabilité. Ceux qui n'ont pas compris grand-chose au plan de Dieu pour le chrétien et pour l'Église, qui est une famille. Mais aussi, ceux et celles que la vie d'Église a blessés. Parce que les bons conseils de certains chrétiens ne sont pas toujours si bons que ça. Parce que la sollicitude de certains peut ressembler parfois à de l'intrusion. Parce que des choses trop dures sont dites parfois. Peut-être des choses justes, mais dites de la plus mauvaise des façons. Ou alors la discrétion, la confidentialité ne sont pas respectées. Vivre en relation au sein d'une église, ça s'apprend et ça se cultive. Et quand les relations sont abîmées, il faut travailler à les réparer. Vivez en paix entre vous. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Vivez en paix entre vous. Qu'est-ce qui se passe dans une église où les gens ne développent pas de relations saines entre eux? Eh bien, c'est la froideur. C'est le règne du formalisme, de l'individualisme. C'est pour le monde extérieur une raison de plus pour ne pas croire en Christ. Car c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens reconnaîtront que nous sommes ses disciples. C'est lui-même qui l'a dit, hein, Jean 13, 35. En toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Verset 15. Et encore une fois, quel privilège de le vivre concrètement à Mérin. Pas juste les pasteurs, pas juste le conseil, pas juste des responsables d'activité, mais les uns les autres. Combien de fois j'ai vu les uns les autres prendre soin l'un de l'autre. C'est un privilège, c'est à valoriser. Allez, respecter les responsables, prendre soin les uns des autres. Est-ce qu'il y a d'autres PS? Si tu arrives à m'envoyer la slide 4. C'est celle qui est juste avant, je pense. Même encore avant. Il me semble, la slide 4. Tac, merci. Comme dit, j'ai un peu pris par le temps, donc je vais passer sur la joie, mais on y reviendra. Je vais passer sur la prière aussi. Je vais passer sur la reconnaissance. Et puis je m'attarde juste quelques minutes encore sur les versets 19 à 22. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. C'est assez lapidaire, hein, pour quelqu'un qui aime faire des longues phrases, comme Paul. Là, il faut faire un petit effort pour comprendre. Éteindre l'esprit. C'est que le Saint-Esprit est comparé à un feu ou à une lumière qui agit dans l'Église, qu'on peut donc switcher, éteindre. Mais dans quel domaine le Saint-Esprit est-il un feu ici? Alors cette fois, dans ce texte, ce n'est pas la nouvelle naissance, pas ici. Ce n'est même pas la sanctification, parce que les fruits de l'Esprit, Galates 5, 22, c'est ailleurs. Ce que Paul pointe ici, c'est les paroles inspirées, les prophéties. C'est un mot qui donne un peu de fil à retordre aux traducteurs de nos Bibles. Parce qu'en français moderne, une prophétie, c'est une prédiction. Mais dans la Bible, c'est parfois cela, mais la plupart du temps, 9 fois sur 10, c'est une exhortation. C'est un mot d'ordre. C'est un encouragement, c'est un avertissement. La Bible, en français courant, appelle ces prophéties des messages inspirés. L'idée, c'est que le Saint-Esprit inspire à certains, à certaines, un message qui est à formuler. Un message pour l'Église. Et le cas d'Agabus, par exemple, en Actes 21, montre bien que la prophétie, elle doit être évaluée. Et que même sur une même prophétie, il y a des interprétations qui peuvent diverger. Et ce n'est pas si évident que cela. Donc, nous avons une église de Thessalonique où les Thessaloniciens seraient tentés de mépriser ces paroles inspirées. Comment est-ce qu'on pourrait mépriser une parole inspirée? Un message qui vient de Dieu. Eh bien, c'est que justement, peut-être qu'il ne vient pas de Dieu. Peut-être qu'il vient de chrétiens qui se prennent pour le nombril du monde. Peut-être qu'il vient de ces farfelus qui annoncent que le retour de Christ est déjà passé. Ou qu'il ne faut plus travailler parce que Christ est sur le point de débarquer. Peut-être qu'il vient d'un chrétien ou d'une chrétienne bien intentionnée, mais qui se trompe, qui prend ses désirs pour des réalités. Quelqu'un qui pourrait mettre tout le monde sur une fausse piste. Et il y avait manifestement à Thessalonique des prophéties, exhortations qui ne tenaient pas la route, qui amenaient certains chrétiens, à partir de là, à mépriser toute interpellation, tout partage personnel, tout discours, un tant soit peu improvisé. Mais il ne faut pas mépriser ces prises de parole. Nous devons examiner les prises de parole avant de les accepter, nous dit le texte. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, verset 21. Donc, on ne se permettra pas de juger une parole qui vient de Dieu directement. Et pour la faire très courte, les seules paroles qui viennent de Dieu directement, elles sont contenues là-dedans. Tout le reste passe par un filtre humain. Même quand moi je vous dis, je pense que Dieu nous met la puce à l'oreille, il y a un bonhomme marqué par le péché, limité par sa réflexion, voilà, il y a un bonhomme. J'espère que ça vient de Dieu. Mais si vous êtes sûr que ça vient de Dieu, c'est là-dedans, point barre. Le reste, ça doit être examiné soigneusement. On trie, on ne garde pas tout, on évalue. Peu importe la forme, que ce soit court, que ce soit long, que ce soit préparé ou spontané, que ce soit calme ou passionné, il faut que je me calme. Peu importe la forme, il faut que le contenu soit juste. Il faut que le contenu soit juste. Et si on discerne dans la voix d'un homme, dans la voix d'une femme, le message de Dieu pour nous aujourd'hui, alors on agit en conséquence. On n'est pas en train d'écrire des nouvelles pages de la Bible. On discerne mieux comment adapter, comment appliquer la parole de Dieu aujourd'hui dans notre contexte. Une bonne prédication comporte, à mon avis, une certaine dose d'enseignement, des faits, rien que les faits, et puis une dose prophétique. Elle m'invite à agir. Le message de nos prédicateurs, de nos prédicatrices, doivent avoir cette couleur-là, et elles l'ont, Amérin. Ce n'est pas simplement un cours sur tel ou tel livre ou telle vérité biblique. C'est un appel à l'action. Vous avez prié ce matin, peut-être, en tout cas, à quelques-uns, ils l'ont fait ce matin, en bas, là, dans la salle du CTT, vers 9h30, ils se retrouvent. Il y a de la place, hein, si d'autres veulent les rejoindre. Vous priez peut-être pour que Dieu inspire celui ou celle qui va parler, et puis qu'il inspire ceux et celles qui l'écoutent. Et puis l'Esprit fait son œuvre. Je prends là l'exemple d'une prédication du dimanche matin, hein, mais on pourrait vivre ça dans un groupe de quartier, dans une réunion de responsables, puis même dans des entretiens particuliers. Tout à coup, ce qui est dit semble tellement évident, tellement juste, que nous y discernons un message d'en haut. Qu'est-ce qui se passe dans une église qui ne tient pas compte de ce troisième PS? Deux choses. Si une église étouffe l'action de l'Esprit, cela veut dire que personne n'accepte que Dieu l'interpelle, que Dieu lui lance un défi, que Dieu l'appelle, par exemple, à la repentance ou à la consécration. La forme de la religion est maintenue, la forme seulement. Personne ne progresse, personne ne grandit, personne ne change. Et au bout d'une génération ou deux, l'Église n'existe plus. Ou alors, si c'est l'autre aspect du PS qui n'est pas respecté, si vous avez une Église où toutes les fantaisies sont possibles, où l'exagération est la règle, une Église en perpétuelle effervescence, sans stabilité, sans cap, sans doctrine, vous avez aussi une église qui finit par exploser en vol. N'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Je suis à ma cinquième slide et je conclue. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre les trois PS que j'ai retenus pour ce matin? Moi, j'en vois un de dénominateur commun. C'est l'importance de la parole humaine dans l'Église de Dieu.
ces responsables qui avertissent, ces chrétiens, ces chrétiennes qui réconfortent, qui encouragent, ces chrétiens, ces chrétiennes qui parlent de la part de Dieu. Eh bien, c'est par leur parole qu'ils édifient l'Église. Tantôt en public, tantôt dans des conversations privées, tantôt en petits groupes, tantôt en grands groupes, ils parlent dans l'Église de Dieu. Vous savez mieux que moi à quel point un bâtiment comme celui-ci, un bâtiment qui se construit, c'est quelque chose d'important. Vous y avez mis tellement de cœur et d'argent. Mais le corps spirituel qu'est l'Église se construit par des relations et par des paroles. Pas par n'importe quelle parole. Des paroles maladroites, amères, pessimistes, exaltées, vont finir par détruire. Mais des paroles empreintes d'amour, conformes à la parole de Dieu, vont nous édifier, vont nous construire. J'arrive au bout. Voilà une église à Thessalonique qui pourrait dévier. L'église de Thessalonique, c'est une église qui pourrait se fracasser devant les circonstances. La désunion, la froideur, le formalisme, l'individualisme, l'illuminisme, voilà des choses qui pourraient transformer la maison de Dieu en frigo ou en champ de bataille. Le défi est donc de taille, slide 6. Le défi, il est de taille. Voilà une église qui ne va pas dévier. Quand je lis cette lettre aux Thessaloniciens, je pense tellement à l'église de Mérin. Voilà une église qui ne va pas dévier. Paul les félicite pour leur foi, leur espérance, leur amour. Paul nous félicite, je crois, pour notre foi, pour notre espérance, pour notre amour. Et en même temps, il nous encourage à porter son regard, notre regard en avant, parce que Paul, toujours, comme le Seigneur, attend le meilleur. Et c'est ainsi qu'il prie à la fin, verset 23, pour que ses amis soient entièrement saints, qu'ils soient parfaitement gardés, corps, âme et esprit, qu'ils soient irréprochables. Vous avez vu le regard du pasteur chez Paul? Comment il voit les gens? Comment j'aimerais qu'on se voit les uns les autres? Entièrement saints, parfaitement gardés, irréprochables. Est-ce que c'est un rêve, ça? Moi, je suis un idéaliste, on m'a toujours dit, il faudra que tu te calmes à un moment donné, quoi. Parce que tu vois toujours les trucs, regarde la réalité. Ben, moi, je ne crois pas que c'est de l'idéalisme. Je crois que c'est inspiré, puis je crois que c'est la vérité. Et puis le verset 24, il dit ceci, et c'est pour ça que je crois que ce n'est pas de l'idéalisme. Celui qui vous appelle est fidèle. Et c'est lui qui accomplira tout ça. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et toutes.
Alors, on va continuer par un petit moment de prière communautaire que j'introduirai juste par trois versets du psaume 63. À partir du verset 4, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Et on va procéder d'une manière un tout petit peu différente aujourd'hui, puisque le déconfinement s'amorce gentiment. Donc, on a remarqué, nous, quand on était, qu'on regardait le culte en streaming, qu'on était très frustrés par les moments de prière. Et je pense que la plupart décrochent à ce moment-là, parce que depuis son écran, depuis chez soi, on n'entend absolument rien. Même si les gens parlent fort, on n'entend absolument rien. Donc aujourd'hui, on va pouvoir se permettre de vous passer le micro. C'est Jacques qui va avoir le micro et qui va le tenir lui-même. Donc ne tenez pas le micro et gardez votre masque, mais au moins ça permettra à ceux qui sont à la maison de vous entendre. Seigneur, on te remet ce moment de prière. On te remercie pour le message d'encouragement de Philippe et on te demande que tu donnes la liberté à chacun de s'exprimer. Amen. Faites juste un petit signe de la main pour qu'on voit et qu'on vous amène le micro.
Oui, Seigneur Jésus, tu connais nos imperfections, nos faiblesses aussi. Et Seigneur, nous aimerions malgré ça que toi tu nous donnes ta paix. La paix dans nos cœurs et le respect aussi pour les uns les autres, pour nos responsables. Seigneur, c'est vrai que la critique est facile, Seigneur, surtout quand on n'a pas le même point de vue. Et Seigneur, merci parce que toi tu es notre Père, tu es la personne qui nous conseille. Seigneur, la personne qui est dans nos cœurs. Merci, Seigneur Jésus, que nous puissions avoir du respect envers les uns les autres. Et Seigneur, que nos imperfections et nos faiblesses ne soient pas une source de division. Amen.
Merci Seigneur de m'encourager à prendre le soin des autres. Amen.
Amen.
Seigneur, nous te louons parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui nous rejoint dans notre réalité humaine. Tous les jours, et parce que ta parole est vivante dans l'esprit, elle nous soutient, elle nous fortifie, elle nous encourage. Merci Seigneur, parce que cette vie chrétienne est une vie pleine, de la réalité terrestre, mais aussi pleine de la réalité spirituelle, non visible, mais pourtant bien réelle aussi. Nous te louons, Seigneur. Toutes ces choses. Amen.
Amen.
Personnellement, j'aimerais te dire toute ma reconnaissance pour tous les ministres que nous avons eus jusqu'à maintenant et qui nous ont vraiment apporté ta parole et ce qui venait vraiment de toi. Alors merci pour tous ceux qui nous ont enseigné et qui continuent de le faire fidèlement aujourd'hui. Je te loue pour cela. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, merci pour
personne. J'avais de la peine à pardonner, ça venait, ça partait, j'avais pardonné, mais ça revenait, et ça donnait la rancune et l'amertume. Et puis cette nuit, j'ai eu une nuit très, très difficile, et j'avais des vomissements, j'étais mal, et puis je ne savais pas si je pouvais aller au culte, parce que je n'avais pas dormi. Malgré tout, je me suis levée tôt le matin, et j'ai commencé à louer cette louer, j'ai commencé à louer le Seigneur pour cette personne, à les bénir et encore à les bénir. Et toute cette rancune, toute cette amertume a disparu. Voilà, c'est juste un témoignage qui peut m'aider aussi à des autres personnes.
Merci pour ce témoignage.
On va terminer par un dernier chant. J'appelle la louange à revenir sur scène.
Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est le roi immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Bonjour à chacun. Je crois que c'est la première fois que je vais faire des annonces qui sont en lien avec la prédication. C'est agréable, une sorte de continuité. Donc mardi, vous avez la possibilité de partager, de vous exhorter avec l'atelier biblique en ligne, comme l'a dit à plusieurs reprises Philippe durant sa prédication. Toujours dans cette idée d'église, de structure, le 25 juin, donc vendredi 25 juin, il y aura le colloque, l'Assemblée générale de l'Église. Nous sommes une association, donc nous devons tenir des assemblées générales, qui est l'occasion aussi de pouvoir s'exprimer sur des orientations d'Église, sur la manière dont l'Église est structurée ici à Mérin, de pouvoir aussi entendre votre voix sous une autre forme que dans des échanges comme on a pu avoir ce matin ou qu'on pourra avoir dans les ateliers publics. Et puis aussi de vous parler des finances de l'Église, et notamment les finances qui sont saines et qui sont bonnes. J'ai encore reçu dernièrement, à fin mai, les finances sont saines et on est vraiment reconnaissant. Merci à chacun de participer à la vie de l'Église aussi financièrement. C'est très rassurant pour le conseil, mais aussi pour notre trésorier, de pouvoir voir une certaine stabilité aussi dans les rentrées d'argent qui permettent de faire fonctionner l'Église, de payer des salaires et de voir aussi l'avenir avec une certaine sérénité. Donc vous avez la possibilité de faire vos dons soit par CCP, soit par Twint, ou en sortant encore en mettant dans la petite corbeille. Voilà un petit peu pour la structure de l'Église, mais il y a aussi d'autres choses. Vous pouvez vous investir aussi bénévolement dans des groupes. Il y a des groupes bâtiments, il y a différents groupes qui existent. Vous pouvez vous investir, vous pouvez vous adresser au pasteur ou directement au conseil pour si jamais vous voulez vous investir. C'est très apprécié, ça permet de faire fonctionner cette église et d'avoir aussi des relations humaines. Et c'est aussi encourageant de pouvoir avoir des moments de discussion. Il y a aussi des groupes de nettoyage. Dernièrement, je faisais des annonces encore pour le groupe nettoyage. C'est aussi des occasions de pouvoir échanger. Maintenant, je vais vous faire un petit peu d'historique. Est-ce que vous savez ce que c'est l'Empire State Building? Oui? C'était c'est encore un des plus grands buildings à New York. C'est un bâtiment, alors bon, ça me parle parce que c'est de l'architecture. C'est un bâtiment exceptionnel de la construction moderne. Ils ont commencé à faire des plans le 17 mars 1930. Il aura fallu 2 semaines pour faire des plans. Alors bon, aujourd'hui, ça me semble complètement fou, mais bon, à l'époque, peut-être qu'ils devaient travailler 24 heures sur 24, c'est peut-être possible. Ils ont commencé les travaux tout de suite, alors par des terrassements, c'est quand on commence à creuser. Et puis le 17 septembre de la même année, donc c'est assez court, hein, ils ont commencé à poser ce qu'on appelle la première pierre. Donc c'est comme ce qui commence à sortir de terre, on pose la première pierre, on fait l'inauguration, et ensuite il y a l'immeuble qui se dresse au-dessus. Et ce qui est assez impressionnant dans le monde de la construction, parce qu'on dit toujours qu'on a du retard, ou bien que c'est assez long, c'est que, grosso modo, il a fallu 8 mois pour le construire. Il est inauguré le 1er mai 1931. 8 mois, c'est moins qu'un enfant conçu dans le ventre d'une maman. Et donc, 1 mois plus tard, le 1er juin 1931, il y a eu la naissance de Charlabel Piguet. Donc, il fête ses 90 ans, ou qui a fêté ses 90 ans cette semaine. Donc, félicitations. Comme quoi, tout est affaire de construction.
Le pasteur va encore nous donner sa bénédiction.
Je vous invite à vous lever et j'aimerais nous envoyer dans cette nouvelle semaine avec les premiers mots et les derniers mots de la première lettre aux Thessaloniciens, en les adaptant un tout petit peu. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, mais de la part aussi de Philippe et de Célina, à l'église de Mérin, qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous remercions toujours Dieu pour vous tous et toutes, et nous faisons sans cesse mention de vous dans nos prières. En effet, nous nous rappelons votre foi si active, votre amour qui se donne de la peine et votre solide espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Saluez-vous les uns les autres avec affection comme des frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et toutes. Très bon dimanche, très belle semaine, à dimanche prochain. C'est Sylvain qui animera le culte avec nous. Bon dimanche à chacun. Allez dans la paix.